Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un procès pas comme les autres, un procès très attendu qui s'est ouvert ce lundi à Paris. C'est le procès d'une entreprise qui plus est membre de l'indice boursier CAC 40 qui rassemble les plus grands groupes français. Ce procès, c'est le procès de l'opérateur télécom Orange à l'époque où il s'appelait encore France Télécom. Il y a 10 ans, l'entreprise et ses principaux dirigeants sont poursuivis pour harcèlement moral après avoir mené une politique de transformation de l'entreprise qui s'est accompagnée de plusieurs suicides d'employés déstabilisé par cette transformation économique et humaine radicale. Management, la fin justifie-t-elle les moyens? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Patrick Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué syndical central adjoint Sud PTT, fondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées. Et Émeric Basse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé chez Valtus, c'est une entreprise leader du management de transition. Expliquez-nous rapidement ce que c'est.
En deux mots, nous accompagnerons les entreprises, les grands groupes, les ETI, les PME, les start-up, dans leur transformation avec des managers dimensionnés, opérationnels, qui interviennent sur un temps donné quand il y a des enjeux forts.
D'accord. Donc vous êtes en quelque sorte des intérimaires du management, c'est ça?
C'est un peu ça, pour intervenir pour donner des sujets de quatre dirigeants.
D'accord. Que pensez-vous de l'ouverture de ce procès et qu'en attendez-vous, Patrick Ackermann?
Beaucoup de choses. Déjà, il faut quand même saluer le fait que ce procès ait lieu, parce que il va traiter des faits qui ont eu lieu pour certains sur plus de 10 ans quand même. Donc, il est attendu ce procès. Il a lieu. On espère qu'il va pas y avoir de nouvelles procédures qui peuvent encore repousser ce procès. Mais en tout cas, bon, voilà, il est là. On souhaite maintenant que ce procès qui a évacué certains motifs d'inculpation, qui étaient les motifs de mise en danger de la vie d'autrui ou bien entrave aux IRP, pour maintenir simplement la notion de harcèlement moral. C'est pas pour nous plaire, mais quand même, cette question est quand même assez fondamentale aujourd'hui. Donc, le harcèlement moral, s'il y a une condamnation, et on souhaite cette condamnation, ça veut dire qu'effectivement, il y a une donnée juridique qui va s'imposer dans le paysage, dans le monde du travail français, qui je pense en a bien besoin, qui est de faire que des PDG, puisque ce sont des PDG qui sont attaqués, une entreprise ne peut pas faire un management violent, un management qui déstabilise les salariés. Ça sera puni par la loi, et en tout cas, on espère une condamnation exemplaire.
Émeric Basse, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès qui est plus que symbolique, en fait? Il doit y avoir une jurisprudence qui doit en ressortir.
Alors, qu'est-ce que j'en attends, moi? J'en attends de montrer à tout individu, aux Français et à d'autres, que le management n'est pas forcément cela. Et qu'il y a un nouveau management qui est un management humain et qui a toutes ses raisons d'être dans les grandes organisations, dans les PME ou dans les start-up.
C'est important de fixer des règles pour ce management. Il y a eu des dérives, manifestement.
Vous posiez la question, est-ce que on peut tout faire justement pour mener à bien ses fins? Il y a des règles, évidemment, et le manager est un manager humain qui a une responsabilité sociale et il doit l'assumer pleinement. Ouais.
Alors, plusieurs hauts cadres dirigeants, dont l'ancien patron Didier Lombard, ainsi que son bras droit et l'ancien directeur des ressources humaines, sont sur le banc des accusés. C'est-à-dire, pas le management dit intermédiaire, mais la haute direction de l'entreprise. C'est important, cette dimension, que les grands dirigeants assument ce qui s'est passé?
Oui, parce que la démonstration qui va être faite, qui est faite en fait dans le dossier d'instruction, il faut le dire quand même, le dossier d'instruction est très très lourd, hein, c'est que c'est une politique qui a été décidée au plus haut niveau, de faire en gros 22 000 départs de l'entreprise sur 3 ans, de 2006 à 2008. C'était le plan Next, qui avait un volet RH, qui était le plan Act, enfin, peu importe les détails, mais en tout cas, voilà. Et la formule de Didier Lombard à l'époque, c'était de faire ces suppressions d'emplois par la porte ou par la fenêtre. Donc en fait, c'était fini la mère poule, fini, il faut y aller, on fera pas dans la dentelle, a dit le RH Olivier Barbereau. Donc on est vraiment là dans un un plan au plus haut niveau qui s'est appliqué à toute une population, à des salariés, à de toutes sortes, sans distinction, sans calcul particulier. Tous étaient atteints, donc tous n'en mouraient pas, comme dirait la fable de La Fontaine, mais en tout cas, tous étaient atteints par ce management très violent.
22 000 départs sur 100 000 employés en France. De votre expérience de manager à vous, Aymeric Basse, c'est un plan de réduction de postes de quelle ampleur ? C'est exceptionnel ou ça arrive finalement assez souvent ? On est sûr donc du 22% de réduction d'effectifs.
Alors c'est énorme, j'ai du mal à juger, ne connaissez pas assez bien le dossier. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que nous, managers de transition et spécialistes du management de transition, on doit avoir une approche qui est à la fois très humaine et très opérationnelle. Moi, ce que je vois de ma fenêtre, c'est que peut-être qu'on avait un problème de profil, et je n'ai rien contre Monsieur Lombard, Didier Lombard, c'est un homme certainement très avec une tête bien faite ou bien pleine, mais nous, nos managers ont un vrai sens de l'homme, un vrai sens opérationnel, ont souvent une expérience et des expériences dans des entreprises multiples. Alors il était comme il est de l'État, mais et notamment on aime les managers nous qui ont des expériences à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont Monsieur Didier Lombard est polytechnicien, donc c'est un statut reconnu en France, mais le polytechnicien ou l'énarque sont peu reconnus et en Chine et au Vietnam. Donc c'est important. Cette posture d'humilité est clé, en tout cas, dans les managers d'aujourd'hui.
Je vous pose la question très directement. Une entreprise vient vous voir, elle dit « je souhaite faire une réduction d'effectifs de 22% en 3 ans. Est-ce que c'est une mission que vous acceptez ?»
On peut pas l'accepter comme ça sur une phrase. Donc on essaie de comprendre le pourquoi, et 22% de réduction d'effectifs sur un plan, à partir du moment où on le communique, on comprend les enjeux, les aboutissements, peut être envisagés à condition de... Je peux pas vous répondre comme ça, évidemment.
Il faut avoir évidemment plus d'informations. On va parler de ce qui leur est reproché, harcèlement moral. C'est quoi exactement, Patrick Ackermann ? Comment c'est caractérisé ?
Le harcèlement moral, c'est... mettre des salariés en situation de précarisation, de déstabilisation. J'ai vécu les choses de l'intérieur, hein, le maître mot de l'époque, c'était le changement, la mobilité, le fait de quitter son site de travail traditionnel, de quitter son collectif de travail. Et c'était franchement écrit en tant que tel, cette volonté de casser les collectifs de travail, ce qui était sécurisant, hein, de casser tout ce qui était sécurisant, en fait, dans le monde de France Télécom, pour que les gens se sentent complètement déstabilisés et on puisse les conduire vers la porte de sortie. Alors, je voudrais simplement reprendre une chose, c'est que pourquoi on fait 22 000 suppressions d'emplois à France Télécom ? La question, c'est, et ce qui a été très très mal vécu par les salariés qui étaient des fonctionnaires, c'est qu'en gros, au plus que cela, c'était on veut virer de France Télécom ces gens qui sont des fonctionnaires, qui ont réussi quand même un parcours assez fantastique de mener une entreprise publique dans les années 90, à la fin des années 90, comme étant avec le meilleur réseau au monde et qui avait en gros réussi tous les sauts technologiques de cette période-là, donc c'était un personnel qui a montré qu'il était capable d'assumer ces évolutions-là, mais par contre, il n'était pas capable d'assumer une évolution, c'était la transformation d'une entreprise en société du CAC 40 dont le maître mot devient le cash flow et le fait de servir des dividendes.
Alors, Aymeric Basse, comment est-ce qu'on... Quelles limites on se fixe, par exemple, à la mobilité forcée, comme le disait Patrick Ackermann, quand on veut faire changer une entreprise, quand on doit faire changer une entreprise ?
Mais je pense que ce plan de transformation, il doit être déjà... il doit y avoir une vision, il doit être exprimé, partagé. Il faut aussi que tous les échelons de l'organisation puissent accepter et intégrer ce plan. Et je pense qu'on n'était pas du tout, en l'occurrence, dans ce cas où c'était un diktat relatif.
Ça vient d'en haut, quoi.
On est dans la stratégie top-down. Et alors, c'est le bottom-up aujourd'hui qui fonctionne. C'est-à-dire que les clés de réussite d'une organisation, d'une transformation, se font par les échelons les plus bas. C'est nécessaire. Donc voilà, c'est un plan d'intégration commun. Et évidemment, tous les acteurs doivent être partie prenante.
Aymeric Basse, vous avez parlé de mobilité forcée. On a vidé les postes de leur substance également. Il y avait des gens qui avaient des titres ronflants mais qui n'avaient plus rien à faire.
Oui, enfin, oui, des gens qui ont été placardisés, c'est ce qu'on voilà.
Pour donc, le dire clairement, voilà.
Pour le dire très clairement. Puis en plus, il y a eu des films là-dessus, il y a des expressions assez nettes, la placardisation, les gens voient ce que c'est. Surtout, moi, je rebondis sur une chose que vous avez dit, c'est la question de la perte de sens. C'est-à-dire que les gens perdent le sens de leur travail.
Ils savent pas pourquoi ils travaillent, ils savent pas ce qu'ils font là, quoi.
Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais période fonction publique, dans un service du dérangement, les gens étaient sensibilisés sur le fait qu'on allait vers le zéro défaut. Il fallait zéro défaut, il fallait 24 heures de temps de relève, enfin 48 heures, puis 24 heures. C'est-à-dire on essayait de satisfaire les usagers du téléphone en supprimant
on parlait pas de, clients à l'époque.
Voilà. Et quand on commence à parler de clients, tout à coup, le discours d'entreprise devient « on s'en fout du zéro défaut, ça coûte trop cher le zéro défaut ». Ce qu'il faut, c'est que le mec qui est mécontent, eh ben, on va l'indemniser. Voilà.
C'est possible de changer en quelques années la culture d'une entreprise, en l'occurrence d'ingénieurs, là, parce que c'était le cas, Aymeric Bass rend une entreprise beaucoup plus tournée vers le client et beaucoup plus commerciale. Il y a de la difficulté à faire ça. Ça prend du temps.
Ça prend du temps. Ça doit être. Oui, ça prend du temps. Et là encore, ça doit faire l'objet d'une transformation à tous les étages. Ça doit être incarné et incarné d'abord par le top management, expliqué. Et ça doit être incarné et expliqué dans toutes les phases et à tous les endroits. Donc, ça nécessite au top management de se déplacer, d'aller à la cantine, d'aller voir toutes les agences et d'expliquer comment ça se passe. Si vous n'avez pas, vous ne prenez pas le temps de faire ça, vous n'y arrivez pas.
Aymeric Bass, vous êtes également fondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées. Patrick Ackermann, excusez-moi. Petite confusion, vous êtes également donc fondateur de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées. Vous observez ces choses-là qui se passent ailleurs qu'à France Télécom ou à Orange. Ça existe encore ailleurs?
Ah oui, mais écoutez, on a fondé l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom. C'était une situation d'urgence. Honnêtement, je vais vous dire quand même que le syndicalisme était aussi un petit peu avait besoin de comprendre. On avait besoin d'avoir des scientifiques avec nous autour de nous qui nous expliquent un petit peu les nouveaux modes de management.
Vous voulez dire que vous ne l'aviez pas vu venir en fait, vous avez été surpris.
Non, je dirais pas ça. On a vu venir quelque chose, une vague de fond. Je pense que tous les syndicats étaient inquiets, ont interpellé France Télécom. Je dirais même avant le plan Next, hein, parce que la situation était terrible déjà à ce moment-là. Mais on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était que les nouveaux modes de management qui s'imposaient aujourd'hui. La transformation. Vous savez, à un moment donné, on parlait que IBM avait parlé de changer sa culture d'entreprise. Et pour changer la culture d'entreprise, il fallait développer la mobilité permanente. Le fait que les gens n'aient plus de référents sécurisant, etc. Et on a vu appliquer ça avec un peu d'étonnement. Et le fait de pouvoir comprendre ça avec la participation d'ergonomes, de sociologues qui nous ont aidés dans l'Observatoire du stress, ça a été quelque chose d'important. Et puis surtout, ça nous a permis de poser la question des suicides, d'interpeller la presse et de faire peser finalement sur l'entreprise les feux des médias.
Pas de bureau attitré, pas de poste attitré. Aymeric Bass, ça se pratique toujours ça aujourd'hui?
Alors ça se pratique, oui, ça se pratique. Pas partout, mais ça se pratique. Mais là encore, je pense qu'il faut. Il faut pas oublier une notion importante, c'est la notion de formation et formation permanente. C'est difficile, c'est compliqué de demander à des gens de changer si on les accompagne pas au changement. Accompagner, c'est les former au changement, c'est les informer, c'est les faire adhérer. Voilà. Alors, changer une culture d'entreprise, c'est tout cela. Oui, on peut. Je crois qu'une personne peut un jour. En lui expliquant le pourquoi et les bons fondements, déménager et changer de bureau. Oui, c'est possible, mais il faut lui expliquer, il faut qu'elles comprennent, là encore, le sens que l'on donne à cette transformation.
Vous diriez qu'on fait la même chose, mais de manière plus humaine, moins rapide peut-être aussi, on prend plus le temps de faire ces choses-là aujourd'hui.
Il faut apprendre aussi, il y a une époque du temps court et une époque du temps long, donc il faut prendre le temps de transformer, et quand on prend le temps, on transforme bien.
Parce que les objectifs des entreprises, en fait, quand même, restent les mêmes. Vous parliez de Patrick Ackermann, de culture du cash flow, le reste, l'objectif d'une entreprise reste quand même de faire de l'argent.
Ah oui, mais pas à n'importe quel prix.
Écoutez,
Patrick Ackermann, oui.
Oui, non, moi, je pense quand même qu'il y a une évolution du monde du travail aujourd'hui. Ouais. Je vois France Télécom, c'était une entreprise non seulement de fonctionnaires, mais aussi de techniciens.
C'est-à-dire, c'était. D'ingénieurs, oui, comme je le disais.
C'était un ascenseur social. Les gens de province montaient à Paris pour aller à France Télécom. C'était une collectivité quand même assez particulière. Et, pour la transformer en société du CAC 40, Je pense que ça pose problème quand même d'arriver à ce niveau-là, c'est qu'on a supprimé les métiers opérationnels, on a sous-traité massivement, ce qui fait que ces gens qui étaient des techniciens voyaient leur métier s'étioler, leur service s'étioler pour arriver à une société qui est une société, voilà, on caricature la chose avec, je crois que c'était un PDG du CAC 40 qui disait qu'il était pour une société sans ouvriers, là
patron d'Alcatel en l'occurrence.
Patron d'Alcatel, tout à fait. Vous avez raison. Je pense que ce schéma-là, c'est un schéma un peu délirant dans les gens qui pensent que la rentabilisation des entreprises passerait par ce genre de choses. Je pense que le vivant dans l'entreprise est important, l'expérience.
Bien sûr. Émeric Basse, oui.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'on est en train de changer parce que des structures extrêmement pyramidales qui existent ou qui existaient se voient aujourd'hui en grande concurrence par des organisations qui sont bien plus plates, où le rôle du manager n'est non pas d'édicter ou d'imposer, mais de partager, de conseiller, de coacher. Et aujourd'hui, avec la jeune génération qui arrive, vous avez ce mode opératoire à l'ancienne, vous verrez, toutes les forces vives vont partir parce qu'elles ne supportent plus cette façon de faire. Donc on change, et les managers changent parce qu'il y a une demande des employés de changement.
La notion de risques psychosociaux, est-ce que c'est pas une manière d'individualiser les conséquences d'une politique qui vient d'en haut, d'une politique collective, Patrick Ackermann?
Oui, bien sûr, on a parlé de souffrance au travail, de risques psychosociaux. Bon, il y a des termes qui sont utilisés pour refléter une situation dans les entreprises. Je pense quand même que dans le monde du travail français, là, au-delà de France Télécom, on constate qu'il y a beaucoup de... On parle de suicide à la SNCF, on parle de suicide, on a parlé de suicide à Renault, etc. Donc il y a un management assez violent qui a l'air de se mettre en place de manière générale, qui viendrait des États-Unis, mais en tout cas, un management qui s'appuie sur une chose, c'est la concurrence, devient le maître mot de l'organisation sociale dans les entreprises, et le management est un management qui avant tout sert cet objectif de lutter contre la concurrence et pas de faire finalement d'organiser vraiment la communauté sociale qu'est une entreprise.
Il y a des méthodes qui ont évolué, vous le disiez, Émeric Basse, hein, le fait de nommer ce qu'on appelle des chief happiness managers, de mettre en place des baby-foot, des corbeilles de fruits pour les salariés, est-ce que c'est de la calinothérapie?
Ça changera rien.
Ouais.
Vous mettez un baby-foot, vous n'êtes pas plus heureux dans une entreprise. Vous pouvez jouer au baby-foot dans un bar, ça sera très bien. Non, je pense que Chief Happiness Officer, on peut l'appeler comme ça, ou juste DRH, et c'est très bien aussi. Non, concrètement, il faut les choses essentielles, hein, d'un manager, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être à l'écoute. Hein. Combien de managers aujourd'hui, et je le dis vraiment, et nous on le pousse, c'est Valtus, faire en sorte que nos managers posent des questions, s'intéressent à leurs équipes,
connaissent la vie de leurs équipes,
bien sûr,
la famille, combien d'enfants,
et
etc.
Pour, ouais. Et pourquoi pas, ouais. Et alors, bien sûr, mais ça fait partie de la vie, on y passe assez de temps tous ensemble, donc c'est nécessaire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Ackermann?
Écoutez, le maître mot à France Télécom, encore maintenant, et je pense parmi les entreprises, c'est de dire un cadre manager ne doit pas rester plus de 3 ans dans son poste, il doit changer. C'est une façon de briser finalement des connivences, parce qu'on parle de connivence avec des salariés. Et les salariés eux-mêmes sont poussés, pour avoir des promotions, à changer régulièrement de collectif de travail. Je pense que c'est une vision particulière. Je reste persuadé quand même qu'une entreprise, pour qu'elle réussisse, c'est un projet collectif avec tous les étages de l'entreprise, et que le fait d'avoir des connivences, d'avoir des collectifs de travail sont essentiels effectivement pour que l'entreprise puisse avoir un vrai dynamisme. Après, sans doute que ça facilite pas la gestion verticale de l'entreprise, mais quand même ça permet que cette entreprise-là soit adaptable et qu'il y ait une solidarité, une culture d'entreprise.
Merci Patrick Ackermann et Émeric Basse, désolé, l'émission est déjà terminée. Merci d'y avoir participé, en tout cas à vous deux, Patrick Ackermann et Aymeric Basse. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.